Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio.
Tu vas être dans ton élément ce soir, Sophie, parce que toi, tu es une femme de théâtre. C'est-à-dire, pas que tu as joué au théâtre, mais tu tripes sur le théâtre. Quand j'ai commencé à te fréquenter, tu m'amenais tout le temps au théâtre. Et j'avoue que c'était pas tout le temps concluant. Parce que le théâtre...
C'est rarement concluant.
Ben, le théâtre, quand c'est plate parce que tu peux pas te lever puis sacrer ton camp. Parce qu'il y a des comédiens sur scène. C'est pas comme un film. Puis tu le sais, au bout de 5 minutes, que ça va être plate en Christie au théâtre. Puis quand c'est plate, c'est plate.
Mais les deux personnes qu'on reçoit ce soir sont des gens, un homme et une femme de théâtre, mais ils font pas des affaires plates. On ressent jamais le besoin de sortir, mais c'est vrai que toi, t'es monsieur cinéma, puis moi, j'ai été longtemps madame théâtre. Et toi, t'as vécu des grandes, grandes, grandes émotions en regardant des films, et moi, j'ai vécu des grandes, grandes, grandes émotions au théâtre. Mais il y a quelque chose qui se passe quand t'as un comédien qui est sur scène et que toi, t'es dans la salle, que tu ne produiras jamais au cinéma. Moi, à un moment donné, j'étais allée voir une pièce, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était au 4 sous. Et c'était Serge Denoncourt qui faisait la mise en scène, et c'était « Je suis une mouette, non, ce n'est pas ça ». Puis c'était des comédiens qui comme réinterprétaient la mouette de Tchekhov. Chacun des comédiens racontait quelque chose de personnel qui lui était arrivé dans sa vie. Écoute, j'ai braillé du début jusqu'à la fin, et tu ne peux pas vivre ça au cinéma. Mais écoute, moi, je suis très contente de recevoir donc oui. Lorraine Pintal et Serge Postigo, parce qu'en plus, ces deux personnes qui sont des touche-à-tout, c'est des gens qui ont à peu près tout fait dans ces domaines-là. Tu sais, Serge, comédien, mais aussi metteur en scène, mais aussi traducteur, mais aussi adaptateur. Lorraine, metteur en scène, comédienne, directrice de théâtre. Et en plus, rappelle-toi, il y a 5 ans, elle s'était présentée en politique pour le PQ.
Ben oui, pour le PQ. À Verdun.
À Verdun, qui est là, ton coin de pays à toi.
À Verdun, tu présentes un cochon avec une boucle rouge, puis il est élu.
Libéral.
Elle allait à l'abattoir, littéralement. Mais tu sais, on dit, souvent j'ai ce discours-là, moi aussi, en disant que c'est un art suranné, c'est un art dépassé, c'est un art qui est vieux, qui est peut-être plus pertinent, le théâtre.
Mais déjà, dire suranné, c'est vieux.
Mais c'est vieux, le théâtre. Mais en même temps, les grands débats qu'on a eus ces dernières années qui touchaient la censure, qui touchaient un paquet d'affaires, c'est au théâtre.
C'est au théâtre.
Donc, le théâtre réussit encore en 2019 à choquer. C'est incroyable.
Mais tu sais quoi? Ça va être le fun ce soir de rencontrer deux personnes qui ont été impliquées dans des controverses. Comme ça, on va pouvoir se reposer.
Oui. Ces deux personnes n'ont pas la langue dans leur poche aussi. Ça va être super le fun. Très hâte. Et bon, Serge Postigo va être content parce qu'on fait des pâtes, étant donné qu'il est italien.
Il n'est pas italien, pantoute.
Postigo.
Non, Postigo, c'est pas italien.
Postigo.
Non, c'est, quoi? C'est très drôle.
C'est
parce
chinois.
Que...
Il est chinois. On oui, l'a jamais su toutes ces années-là. Il est chinois.
Il n'y a pas une once de sang italien, mais il est très méditerranéen. Hey!
Les blocs.
Quel coup de théâtre. Deus ex machina.
Qui est là avant? Qui est là avant l'autre?
Coup de théâtre. Hey, les deux en
Bonjour, les deux. Alors, quand je suis arrivée, je dis, bon, ils ont loué une chambre d'hôtel, ils nous invitent.
Puis on sait que ça commence en mangeant, puis on sait pas comment ça va finir. Fait que, hein?
J'ai toujours rêvé d'une aventure avec Serge. Alors, que ce soir, que ça se passe.
Voilà, Richard va être jaloux.
Oui, alors Richard, écoute, une autre fois. La femme est là, quand même.
Alors, un petit verre de vin. Toi, t'es plus blanc ou t'es plus rouge, Serge?
Rouge.
Toi, t'es rouge, ouais. Toi, tu veux du rouge à l'apéro aussi?
Non, écoute, moi, je vous suis, là, c'est pas...
Non, non. Demandé
du blanc. C'est toi, mais on est plus blanc.
Oui, les filles, on est blanc.
Les filles, on est blanc.
Ah oui, c'est vrai. Mais souvent, j'avoue que si on compare, puis les gars, c'est bière.
Ou rouge.
C'est spécial, le Québec, quand même, parce qu'on passe vraiment de l'hiver, quasiment du mois de novembre, au mois de juillet.
Oui, sans aucune transition.
Sans aucune transition. Il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'automne. Ouais. Et j'imagine que ça dit quelque chose de notre personnalité.
De notre personnalité, parce que
c'est des gens comme qui sont... Ouais. On est très...
aux extrêmes.
Ou l'autre, ouais.
Ouais. Mais on est surtout, tu sais, on s'est rapidement, il y a des gens qui nous ont comparé au peuple russe ou le peuple russe comparé aux Québécois, mais on a cette endurance climatique qui fait que il y a rien qui nous arrête. Donc on est un peuple combatif, on est un peuple de résilience, on est un peuple tenace.
C'est pour ça qu'on montre souvent des Tchekhov, quoi.
Ah ben oui, ben
en même temps, il y a un côté dans Tchekhov, c'est un jour on ira à Moscou, un jour on ira à Moscou, puis ils vont jamais.
Ouais.
C'est comme nous autres, un jour on va avoir notre pays, on va avoir notre pays un jour,
puis on ne l'aura jamais.
Comme Tchekhov.
C'est pareil. Avant que vous arriviez, Richard, il dit « Ah, c'est le fun, on mange de l'italien, on va boire du vin italien. » Puis comme ça, Serge va se sentir chez lui. Puis là, j'ai dit « Non, pas italien, pantoute. »
J'ai eu un, j'ai eu 12 ans d'italien dans ma vie, mais je suis plus avec.
Ah,
ouais.
Non, je savais pas.
Ah oui, mais c'est pas vrai. Non, c'est le fun, deux Italiens.
Non, je suis d'origine espagnole, moi.
Oui, un vrai espagnol.
Moi, je suis français d'origine espagnole.
Oui.
Ouais.
Espagne, là.
Ah oui, Espagne. Moi, mon arrière-grand-père a pris un interprète pour demander en mariage à mon arrière-grand-mère.
Qui était
espagnol.
Ah, ton grand-père était français, puis t'as...
Exactement. Du Maroc, ils étaient tous au Maroc. Hmm. Puis le Maroc et l'Espagne, hein.
Ben
c'est,
oui.
C'est connecté, mettons.
Oui.
Et donc, il l'a rencontré à Casablanca. Hmm. Il est tombé amoureux de cette femme-là, qui ne parlait pas du tout ni arabe ni français. Alors, il a pris un interprète et puis il l'a demandé en mariage.
Donc, il est tombé amoureux d'elle par sa grande beauté, parce que quand tu peux pas, si tu peux pas communiquer avec quelqu'un, tu peux pas connaître sa personnalité.
Ben, je pense qu'aussi au début du 19e siècle, on tombait vite amoureux pour sortir de chez soi aussi, je pense.
Ah, c'est ça. Ouais.
Il l'a rencontré à Casablanca dans un bar avec un pianiste noir qui jouait, puis il a dit « Play the grand fan ».
C'était lui. C'est
Humphrey Bogart,
exactement.
Pendant qu'on se parle, Serge, notre fils est dans sa chambre en train de jouer à des jeux vidéo. Le théâtre pour cette génération-là.
Oui,
là.
Ah, mais tu dis ça, mais tu sais, il est allé voir Geronimo, il est allé voir les spectacles, il est allé voir Mary Poppins, que Serge a mis en scène, traduit et adapté. C'était extraordinaire.
Ça durait quoi, 2 heures et quelques?
Oui. 2 heures et quelques, oui. Puis ça, Mary Poppins, on est 2h40, à part l'entracte, là. Moi, Valentin, il avait 2 ans. Il l'a vu 5 fois, 6 fois.
Oui.
C'est pas vrai. Souvent, les enfants ont dit un spectacle 50 minutes, on peut pas capter leur attention plus que 5. C'est complètement faux. C'est complètement faux. 20 minutes plates, c'est trop long.
Peut-être que ça va vous fâcher, mais le théâtre, quand c'est plate, Christ, que c'est plate.
Oui, mais le cinéma, quand c'est plate, c'est plate. Non, la TV, quand c'est plate, c'est plate.
Ah non, c'est vrai. Moi, je suis d'accord. C'est que tu as un sentiment de séquestration. Tu te sens poigné,
Oui. Mais l'humour aussi, ça peut être plate, tu comprends?
Absolument. Mais l'humour, c'est aussi, en fait, le rapport humain sur scène. Quand tu fais « Oh non, c'est pas pour moi, shit! »
Là, ce que je fais ici.
Oui.
Quand un film est plat, je me sens pas mal. Quand une pièce de théâtre est plate, je me sens mal. Je suis mal à l'aise.
T'es captif.
Je suis mal à l'aise pour ce monde-là.
Serge a raison, c'est la même chose en humour. Quand tu vas voir un spectacle d'un humoriste et que l'humoriste, blague après blague après blague, tombe à plat, c'est même pas les beaux malaises, là. C'est les laids malaises. Là. En fait, c'est tout le théâtre vivant.
Mais
c'est la même chose.
Ce qui me rend triste par rapport à ça, c'est quand quelqu'un vit une mauvaise expérience au théâtre, comme ça. Là. Moi, ça m'est arrivé, on est tous déjà arrivés d'aller au théâtre et faire « Oh God! » Prétentieusement, on dit « C'est pas bon, mais ultimement, c'est que c'est pas pour toi. »
Tu le sais après 5 minutes.
Ah, tu le sais assez rapidement.
Oui,
tu le sais assez rapidement. Le problème, c'est que les gens, quand ils vivent une mauvaise expérience comme ça, je parle pas des initiés comme on peut l'être au théâtre, mais monsieur, madame, tout le monde, ils font « Ah, si le théâtre, moi, j'y vais plus.
Mm. »
2-3 expériences de même, puis ils font « J'y vais plus ». C'est ça qui est dommage, parce que quelqu'un qui va manger dans un restaurant puis qui aime pas son repas, il dit plus « Moi, je vais plus manger dans un restaurant ». Ils ont tendance à prendre le théâtre, à le prendre dans une globalité et de prendre comme « Cet art-là est indigeste pour moi, je ne l'aime pas ». Et c'est ça qui est dommage.
Mais je te dirais aussi qu'il y a la question des sous. Mm. Le théâtre, Ben, c'est plate à dire, mais ça coûte cher. T'sais, une place de cinéma, c'est 12 12, 13 Aller au théâtre, c'est
20 là.
18, 19. 18? OK, c'est parce que je suis allée à une matinée l'autre fois que j'ai acheté. La dernière fois que j'ai acheté mon billet.
Ouais, mais disons, tu compares à l'opéra ou à l'OSM même ou au Grand Ballet, c'est des arts qui sont plus, qui devraient être, à mon avis, plus populaires, mais c'est très, très cher. Écoute, c'est des billets en haut de 100, 120, 125 $ là. Tu sais, le théâtre n'est pas rendu là. Le théâtre, le maximum, c'est 70, 75. C'est cher quand tu paies le plein prix. Mais moi, je connais pas un théâtre en ville qui a pas travaillé sa tarification pour faire en sorte qu'il y ait des possibilités pour des gens moins bien nantis de prendre un billet à 35 $ à 20 $ à 25. L'abonnement, je vais faire ma pub d'abonnement. L'abonnement est probablement le meilleur moyen de venir au théâtre.
Chef de l'abonnement.
Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est aussi avantageux au niveau des prix.
Bien sûr.
Il faut que tu planifies tes soirées 5, 6, 7 soirs dans l'année. Mais ça coûte quand même moins cher. Pour revenir à Mary Poppins, quel travail incroyable, quelle mise en scène, les trucages, la direction d'acteurs, les chanteurs, les chœurs, les chorégraphies étaient absolument incroyables. Et qu'on ait ça à Montréal, là, cette espèce de niveau de production qui nous situe Broadway Inn, là, tu sais, là, on n'a aucune gêne à dire que...
C'est bien facile de savoir à quel point c'est une affaire d'équipe.
Oui,
t'es bien passé pour ça, là.
Mais quel rodage! Moi, je me sens...
Théoriquement, on ne devrait pas être capable de faire ce genre de production-là ici, non, avec les sous qu'on a.
Oui, on n'a pas les...
Alors, c'est quoi ton secret?
Si je parle juste pour moi, j'y laisse du mien là-dedans. L'équipe, il laisse du sien. On part à 3, 4 heures du matin. Pas les acteurs, parce que ils sont...
Il faut les
protéger. Puis l'UDA aussi, j'ai le droit de les faire travailler tant d'heures par jour. Ça. Mais sinon, les techniciens, Marie-Hélène Dufort, mon assistante, l'équipe de conception et tout ça...
Mais est-ce que, dans le fond de toi, ton rêve, c'est de faire un Beckett dans un petit théâtre avec 3 personnes dans la salle, puis tu rêves de ça dans le fond, puis t'es un peu triste?
Tu sais, je veux dire, c'est une drôle de question que tu poses. Mais on rit, là, parce que je comprends ce que tu veux dire, mais... Je suis vraiment pas élitiste en théâtre. Vraiment pas. Mmh. Vraiment pas élitiste. Puis j'ai joué au TNM quelques fois. Puis dans un Molière. Dans le Tartuffe et tout. Puis j'ai adoré jouer là. Puis j'ai fait, quand je suis sorti de l'école, je faisais. J'ai fait à Gauvreau quand je suis sorti de l'école. Une création de Gauvreau, en plus, qui avait jamais été faite. La reprise de Gauvreau. Et pour moi, ça n'est pas de meilleur... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas une perception de valeur de ma part de ces œuvres-là qui est différente de Fame ou de Footloose, qu'on pourrait dire. Attends, tu es en train de comparer Gauvreau à Footloose. Non, je ne compare pas les auteurs ni l'œuvre elle-même. Mon métier, moi, ce n'est pas de monter ces œuvres-là. Mon métier, c'est de toucher les gens dans la salle.
Ben, c'est ça.
Point à la ligne.
Hey, les amis, avez-vous faim? L'apéro, c'est le fun, mais donc on va passer à table. Et on aurait dû faire venir de la paella au lieu de faire venir des pâtes, finalement, pour rendre hommage à tes origines espagnoles.
Je suis partie en italien, mais je suis vraiment contente de manger italien.
Ah, ben tant mieux.
Le vin blanc
est super bon.
Il est vraiment bon.
Gestion de... Inama, vin soave classico, une suggestion de Patrick Désy de Méchant Raisin.
Ah oui?
Et on mange...
Il est bon, il est vraiment bon.
De la saucisse italienne avec des capres et des petites olives. Et des avocats avec des petites crevettes, des petites gambellini.
Ça a l'air aussi délicieux. Mais qui n'aime pas l'italien?
Ben, même si on n'a pas d'origine italienne, là,
mais
vraiment.
Je dois avouer, Serge, qu'à chaque fois que je suis allée assister à une première d'un spectacle que tu montais, Marina était là, évidemment, puisque Thomas était là aussi. Et peut-être que je me trompe, mais je pense que vous avez quand même une bonne relation.
Pas juste quand même. En ce moment, à l'heure où on se parle, Marina est à New York, on s'est écrit 3 fois aujourd'hui.
Ah oui!
Le show qu'elle est allée voir, puis tout ça.
C'est fantastique.
Alors, rater son couple, c'est une chose qu'il ne faut pas rater. C'est sa séparation quand on a des enfants.
Tu sais que c'est difficile. Là.
C'est pas évident. Quoi ton secret?
Mais bravo à vous deux.
Oui, mais aussi, j'en reviens pas.
D'emblée, d'abord, on pense... On a d'abord pensé à Thomas.
Ouais.
La première des choses, on pense à l'enfant. C'est ce qui nous empêche de dire des conneries.
Ouais. Et d'échapper une crevette.
Ou de dire du mal de l'autre devant l'enfant. Voilà.
Parce que dans une séparation, ça se passe pas toujours super bien.
Il y a des rancœurs.
Il y a des rancœurs, ça se passe pas toujours. Genre, c'est pas toi, mais moi, je suis plus amoureux. Ben moi non plus. Ah, bon, on se laisse, c'est super.
Ben, oui.
Non, c'est pas le même, ça s'est passé vraiment. Donc, On essaye d'être le plus intelligent possible, dans le sens où des fois, on a envie de rentrer dans l'autre. C'est normal, on a envie d'y rentrer dedans, pour toutes sortes de raisons, aussi bien elle que moi, dans n'importe quel couple, quand on se quitte comme ça. Puis, mais on a eu, je pense, l'intelligence de se dire, attends, si je brise quelque chose, là, si je brise tout, là, après, on fait comment avec Thomas? Non, moi, Thomas, du jour 1, j'ai toujours valorisé sa mère. Et sa mère, ça. Et voilà.
Oui.
Et ben aujourd'hui, on arrive, Marina et moi, à se parler et à s'écrire et à, quand ça ne concerne pas nécessairement Thomas.
Excuse-moi,
ça,
je veux pas faire
on
la
psycho. On ne fera pas être convenante, mais...
Est-ce que vous avez un thérapeute de couple ou whatever?
Non, quand on était ensemble. Quand on était ensemble, oui. Mais pas après, non. D'ailleurs, quand on s'est quitté, Marina et moi, ça se passait bien dans le sens... Bien, dans le sens qu'il n'y avait pas de « je veux ceci, tu vas me donner cela » et tout ça. Ça a pris 3 minutes, ça a fait « toi ci, moi ça, super ». That's it.
C'est rare.
Je me souviens plus qui ou quoi qui nous a obligés à aller voir un médiateur. Comme 6 rencontres.
Un médiateur qui est payé par le gouvernement.
Je me souviens plus. C'était quoi? En tout cas, tout allait bien. Puis on était voir un médiateur matrimonial, je sais pas quoi, là. Écoute, on est allé une fois, la marde a poigné au bout d'une fois.
Parce que c'est pas...
C'est parce que là, ça allait super bien, Marina et moi, là, on s'entendait et tout, on est sortis de là, si on était de même. J'ai fait, Marina, on retourne pas là, là. Chris, non, mais je te jure. Non, parce que là, t'as fait, oui, mais il me semble que... Est-ce que ça se peut, monsieur, que finalement, votre véritable intention, c'est...
Ah oui.
Ben hey, non, c'est pas ça du tout.
Ben quand même.
Vous, madame, vous avez pas senti ça? Tu fais, hey, qu'est-ce que tu fais, là?
C'est lui qui mettait la zizanie.
Oui,
c'est comme dans le sommaire de Zizanie, le livre
d'Astérix. Oui, il parlait des phylactères verts. Il y avait des phylactères verts au-dessus. Fait qu'on a arrêté cela direct. On s'est toujours entendu, Marina et moi. Il y a même pas de... Comment je pourrais dire ça? Il y a même pas de... Même financièrement, il n'y a pas de... Tu me dois, j'ai payé. Non, c'est comme ça. Puis tout va bien. Puis moi, je paye les trucs. Puis tout ça. Puis on sent... Fait qu'on a essayé. Et là, mais le dark side de ça, si je peux m'exprimer ainsi, c'est que quand ton enfant est très jeune et que tu te sépares, c'est dur pour lui.
C'est sûr.
Puis quand il voit ses parents avoir une bonne relation... Il comprend pas pourquoi tu n'es plus avec.
Mais il espère, il continue à espérer que vous allez revenir
Thomas,
ensemble.
Thomas espère encore. Il a 17 ans, il avait 5 ans quand on s'est séparés.
Ben, tu as tout à fait raison, je n'avais pas pensé à ça. Ils se disent, mais étant donné que ça va très bien.
Pourquoi ils sont séparés?
Jusqu'à il y a 3-4 ans, Thomas, il disait, regarde, l'amoureux de maman, il pourrait aller avec Karine. Puis toi, tu pourrais retourner avec maman. Je fais, ben écoute, parle-en à ta mère, moi.
Et Serge, à moins que je me trompe, corrige-moi si je suis dans l'erreur, mais te jouer avec l'ex de ta blonde, non?
Attends, l'ex de ma blonde actuelle?
Oui.
J'ai joué avec, oui, l'été dernier.
C'est qui, l'ex de ta blonde?
C'est Martin Lamotte,
c'est
oui.
Martin Lamotte, c'est ça?
En fait, ça, c'est...
Non, mais
facile.
En fait, Martin est devenu mon meilleur ami, en fait.
Hein? Tu me niaises,
Martin, j'ai pas de compte conjoint avec Karine, j'en ai un avec Martin, parce qu'on a un triplex ensemble. Oui.
Je fais une parenthèse.
Ah oh, ben là, toi, tu m'étonnes, Serge Postigo.
Martin Lamotte, pour ceux qui le connaissent pas, si vous êtes des fans du Père Noël est une ordure, ouais. Et de tous les films des Splendides, il était là-dedans. Ben c'est lui, ouais. Monsieur Doubichou, non?
Oui, c'est lui qui a écrit surtout Papy fait de la résistance.
Ben voyons donc, toi!
C'est lui, Super Résistance, c'est lui.
Monsieur Doubichou, Roulé sous les aisselles,
non? Non, c'est pas lui.
Comment ça, tu as joué avec lui?
Ben, j'ai joué avec lui dans le Colombo l'été dernier. Mais c'est qu'il est devenu un grand ami. En fait...
Comment?
Allez, on parle de
vraiment
ça, là?
On commence à zéro.
Ouais, c'est carré,
oui,
c'est pas...
Ben non, mais c'est un souper, on parle de toutes sortes de choses, des choses sérieuses.
Ça nous intéresse.
Ben oui.
Comme le dit le dicton, ça ne nous regarde pas, mais ça nous intéresse.
C'est très drôle.
Pour faire une histoire courte, quand j'ai rencontré Karine, elle était mariée avec Martin. C'était un couple qui était en fin de vie.
D'accord.
Ils se sont quittés vraiment, ça a duré 8 minutes et demie. Et ils ont soupé après comme nous, et puis voilà. Et quand j'ai rencontré Karine, j'ai découvert très, très rapidement l'importance qu'avait dans la vie de Karine Martin.
Ah.
Il était tantôt son père, tantôt son fils, elle était tantôt sa blonde, sa mère, sa... Voilà.
Son meilleur ami. Ou
voilà. Ce sont des êtres, je pense que ce sont deux grands amis qui se sont retrouvés mariés, en fait. Et qui se sont aimés, tout ça, ça ne change rien. Mais j'ai compris intuitivement l'importance que l'un avait dans l'équilibre de l'autre. Et la première fois que j'ai rencontré Martin, c'était au théâtre Édouard VII. Il jouait à Édouard VII à Paris. Avec Karine, on va le voir jouer. Puis elle me présente. J'étais maintenant le conjoint de Karine. Et à un moment donné, Karine est partie aux toilettes, puis j'ai dit, écoute, Martin, je te connais pas, mais il y a une chose que je sais, c'est que je sais que t'es important pour Karine. Alors, je veux jamais que tu te sentes menacé par ça.
Wow.
Je veux pas que tu... Moi, la place que tu as, je ne me sens pas menacé comme amoureux de Karine de ça.
Tu pour moi, tu réponds, en fait, t'as une place à part dans le cœur de Karine.
J'aurais pas été comme ça avec, je sais pas, l'ex de Marina, disons, ou je sais pas, je sais pas. C'est une fleur qui pousse et que tu fais, ben, gadon, c'est ça qui pousse. Martin est devenu un grand, grand ami. J'ai voyagé avec Martin. Mm. Voilà. Et à un moment donné, Martin voulait investir ici, moi aussi, mais on a acheté un triplex ensemble. Et puis,
il a joué ici. En fait, il pratique son métier ici.
Non, il le pratique en France. Il travaille énormément en France. Mais ils ont joué, Karine et Martin ont joué une pièce il y a deux ans. Il y a deux et trois ans à Paris, qui est Columbo,
la pièce
qui a donné naissance au personnage de Columbo.
Ben voyons donc!
Oui, qui a donné naissance. Et à un moment donné, juste pour rire, leur a demandé, est-ce que vous voulez venir jouer ça ici? Et ils ont dit oui, mais juste pour rire, m'a demandé d'en faire la mise en scène et m'a demandé de jouer le rôle du psychiatre, le rôle principal, le meurtrier là-dedans. Et donc, on a joué Martin et moi ensemble.
On engage comme chroniqueur culturel des gens qui ne connaissent pas la culture. On n'engagerait jamais comme chroniqueur politique quelqu'un qui ne sait pas qui est René Lévesque ou qui est Bernard Landry. On n'engagerait jamais comme chroniqueur économique quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un bilan financier, des états financiers ou ce qu'est la différence entre un chiffre d'affaires et des bénéfices. Mm-hmm. On n'engagerait jamais quelqu'un en sport.
Jamais.
Qui sait pas c'est quoi la différence entre, ben, moi, je connais rien en sport, fait que je peux pas trouver une comparaison.
Nadal et,
Federer. Bon. Ouais. Deux excellents joueurs de hockey. Je pense que c'est un bon excellent.
J'ai été postulé, d'ailleurs.
Un gros marqueur, Federer. Je te dis, quand il joue sur la bottine, des fois. Alors,
pour les rappers.
Mais on le ferait pas en sport, on le ferait pas en économie, on le ferait pas dans aucun domaine. Mais en culture...
On se permet n'importe quoi.
À la rigueur, on prendrait quelqu'un... On est plus exigeant pour quelqu'un pour faire la météo qu'on l'est pour quelqu'un qui couvre la culture.
Pourquoi, parce que c'est censé
parce
être facile.
Parce qu'on pense que c'est ça... Quelqu'un, t'as déjà lu un livre? T'as déjà vu un film?
Tu vas être chroniqueur culturel. Exactement.
Parce que tout le monde regarde des films, tout le monde regarde des séries. C'est pas vu comme quelque chose...
De sérieux. Non. C'est pas quelque chose qu'on prend au sérieux.
Puis au franc-tirant, Michel Tremblay, il avait fait une sortie sur les petites filles. Les petites filles en culture. Il dit, il faut rien qu'elles soient cute, puis tout ça.
C'était Michel Tremblay ou c'était Paul Touton?
Non, c'était Michel Tremblay.
Il
disait les petites filles en culture, quoi.
Parce que Michel Tremblay, il s'est pogné avec Serge par Facebook interposé. Quand tu avais fait ton casting...
Je me suis pas pogné avec lui. Il a fait une sortie.
C'est lui, il a fait une sortie en disant que c'était de la bullshit quand tu avais fait ton casting.
Je me rappelle très bien de ça. Tout à fait.
Qui nous a permis de découvrir une perle, qui est Joël Langteau, que j'adore.
Tu vas passer au rouge.
J'adore Joël Langteau. On disait, quand je l'ai vue la première fois, elle vient d'où, elle?
Moi, quand je l'engageais, elle travaillait à la ronde.
T'es pas sérieux?
Pour gagner sa vie. Oui. Elle a étudié en théâtre musical à Lionel Groulx.
Ouais.
Mais elle travaillait pas. Puis elle travaillait à la ronde. Et l'été d'après, elle travaillait à la ronde.
Mais écoute, Serge,
l'été d'après.
L'été d'après, elle
travaillait
à la ronde.
Oui.
L'été d'après quoi?
Après Mary Poppins, elle a retourné.
Oui,
que je vérifie avec elle, mais il me semble que oui.
Mais oui, elle est dans Mamma Mia.
Oui, mais elle a passé des auditions. Elle a passé trois auditions.
Attends une minute. L'été d'après.
Bravo.
Pas longtemps après, oui.
Elle travaillait à la ronde.
Oui, elle est retournée à la ronde pendant un petit temps.
J'en reviens pas.
Parce qu'il faut.
Tu passes de Mary Poppins à la ronde.
Oui, mais ici, tu le sais comme moi, Lorraine. Ici, tu peux faire Mary Poppins. Vendre 100 000 billets en 6 mois, être vraiment avoir des critiques extraordinaires, publiques, médias et tout.
Puis ça retombe.
Il n'y a plus rien après.
Il n'y a pas de retombée matérielle. Il n'y a pas de « OK, toi maintenant, tu viens ici, là, et tu… » Non. La pauvre Joël, quand je dis la pauvre Joël, quand elle a fait Mary Poppins, les gens l'invitaient à la télé et tout, mais ils voulaient qu'elle vienne déguisée.
Non!
Mais oui. Il voulait qu'elle vienne constamment déguisée. Moi, j'ai fait non.
Pour que ce soit.
Non.
C'est elle. C'est pas le personnage.
On est allé voir la revue de l'année au Rideau Vert.
Elle était très bonne.
Elle faisait Céline Dion.
Extraordinaire.
Elle était super bonne.
Exceptionnelle.
Ah oui, j'ai pas vu.
Elle est drôle. Là, venez voir Mamma Mia. Je vous invite à venir voir Mamma Mia. Venez voir Mamma Mia.
Je vais y aller. J'adore.
Parce que Mamma Mia, le rôle de Donna qu'elle joue, qui était.
J'ai vu d'ailleurs à Londres.
Ah oui, oui.
J'ai hâte de le voir à Montréal.
Et donc, le rôle qu'elle fait. Est très rara, c'est une fille Donna, c'est une fille qui a construit son auberge depuis 20 ans, oh, oui. qui a élevé sa fille seule sur une île.
C'est Meryl Streep dans
c'est
le film.
C'est Meryl Streep ouais, dans le film, oh, voilà. Oui, oui. Et mais dans la dramaturgie, dans l'histoire de ça, le personnage est plus rough que ce que le film en a fait.
Okay.
D'accord? Il est plus rough dans le sens où il l'a pas eu facile. Mm-hmm. Elle l'a pas, vraiment pas eu facile. Et donc, elle a beaucoup d'humour, puis très, elle est mordante, elle est acide. C'est Joël dans la vie, ça.
Ah,
ah
ouais.
Ah oui, non, mais attendez.
Elle
là.
C'est pas une Mary Poppins.
Oh mon Dieu,
sage
non, mais quand les
tout,
gens
là.
Qui la connaissent ont su qu'elle avait eu Mary Poppins, les gens ont fait, mais il est fou, il sait pas faire de casting, lui. Voyons donc. À un moment donné, le CEO de Disney Europe est venu voir le show à Québec. Et après, ouais. t'es mangé avec, il voulait rencontrer. Quand il l'a vu au restaurant, elle a parlé, il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'elle dit?
Ah, c'est drôle.
Il
fait,
ah, ils étaient là, ils la regardaient là. Et après, ils m'ont dit, mais
c'est rock'n'roll.
Mais c'est incroyable. On la reconnaît pas. On la reconnaît pas.
Mais c'est à ça qu'on reconnaît un grand acteur ou une grande actrice.
Et voilà.
C'est quelqu'un qui est capable d'être autre chose que ce qu'il est.
Voilà, mais c'est ça. Mes auditions ouvertes, c'est ça. Parce que, un, je la connaissais pas. Ça m'a permis de la découvrir. Deux, même si je la connaissais, ça m'est arrivé dans Mamma Mia. Mm. Joël m'appelle. Elle me dit, Serge, viens-tu à l'audition? Je lui dis, écoute, Joël, elle a 40 ans, une fille de 20 ans. Mes personnages ont 40 quelques années ou 20 ans. Quand je pense à une fille qui a une fille de 20 ans, c'est pas ta face qui me vient, Joël. Mais
ouais.
Écoute.
Viens.
Viens. Par amitié, viens. Mais Joël, tu sais, eh bien, voilà.
Et elle c'est
incroyable. Elle a tué tout le monde.
Toi, t'avais jamais entendu parler d'elle, cette fille-là?
De Joël? Mais jamais. Mais 80% de mes cas, je les connais pas.
Défendre un peu Michel, ça n'a rien à voir avec le fait que... Parce que moi, je trouvais que tu fonctionnais de la bonne manière.
Parce que lui, il y avait Michel Tremblay, pour rappeler, il avait dit que c'était de la bullshit faire un casting.
Non, mais c'est parce que Michel Tremblay... c'est deux écoles, hein? Puis Michel, ce que toi, t'as mis comme vraiment le pavé dans la mare, c'est un peu ce qu'on reproche à certains cinéastes qui regardent les acteurs... qui ont une formation, les acteurs de théâtre, comme étant, là, c'est blasphématoire que d'engager ce genre d'acteurs-là, ouais. parce qu'ils ne sont pas naturels à l'écran. Mm-hmm. Et je pense que tu as été un peu associé à ça en disant, ah ben oui, il va chercher, oui, trouver cette espèce de perle rare, mais qui n'a pas, mais elle a quand même une formation en Sainte-Thérèse, là, mais tu sais, qui n'a pas
mais en fait,
nécessairement la formation.
Je comprends ce que
pour
tu dis, mais je pense que Michel Tremblay avait peut-être mal saisi ce que je disais.
C'est
lui pensait que je disais, je ne veux pas voir ces étudiants.
Alors
je
que
ne
tu
veux
les pas
voir
pas.
Les. Je veux
oui,
voir que des
kidames.
Mais pas du tout. En plus, c'est même pas. L'interprétation n'est pas possible. J'ai fait une vidéo où je dis. Et d'ailleurs, le jour où les auditions ont été lancées, il y a plus de 120 agents et agences qui ont reçu le breakdown, comme on dit en anglais. Tout le monde, en fait. J'ai vu tous les finissants des écoles qui voulaient venir.
Est-ce que tu as fait ça pour le stunt publicitaire? Est-ce que quand même tu es un homme d'affaires aussi aguerri?
Je le jure sur la tête de mes enfants que non. D'ailleurs, ça n'avait pas été publicisé du tout. C'était sur le site web de Juste pour rire. C'était ça, en fait.
Ouais, tu ne voulais pas faire une campagne de marketing autour des auditions.
Pas du tout. D'ailleurs, si on avait eu des velléités de ça, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait une télé-réalité, ces auditions, les amis.
Ben oui.
Hey! Les auditions
oui,
de
Let's Go,
jamais été question de ça, même au contraire, il y a interdiction de faire quoi que ce soit. Est-ce que vous avez vu un making-of de ça?
Non.
Pas du tout. En fin de compte, la véritable raison, vous savez, ça, c'est quoi? C'est ma propre inculture. Je connais peu, j'ai peu le temps d'aller au théâtre maintenant.
Donc, tu connais
malheureusement.
Peu l'émergence.
Et ouais. Moi, là, on me nomme plein d'acteurs, là, tel acteur là, chez toi qui joue et tout. Je fais, putain, mais c'est qui ça? Je le sais pas, j'ai peu le temps. J'ai trois enfants, je travaille, je suis débordé. Moi, là, quand j'ai un soir de libre, là.
Hey tu viens ici pour souper faire des chez Martino.
Alors, je connais peu et j'ai fait, je connais pas tous les gens et je ne veux pas faire ce que je vois et ce que j'ai déjà fait, c'est-à-dire donner des rôles à des gens qui sont
des évidences.
Des évidences, mais des évidences pour moi. Alors, je fais bien.
Mais ça, c'est tout à ton honneur.
Mais tu fais un casting open
aussi. Mais c'est là, drôle, tu le fais en ce moment,
pour un Molière.
Oui, c'est ça. Puis
mais c'est quoi,
tu étais
inspiré par ça?
Bien là, écoute, je les vois...
pour la Anne Frank, tu l'avais fait.
Je l'avais fait pour Anne Frank. On avait reçu à peu près 250 CV.
Ouvert ou uniquement définissant d'école, des professionnels?
Non, ouvert.
Ouvert.
Oui, parce que moi, j'ai découvert Mylène Saint-Sauveur, qui n'a pas fait d'école et qui m'a été recommandée par le producteur Didier Morissonneau. Et là, je n'avais jamais vu Mylène. Et quand je l'ai vue, j'ai fait, mais là... Et tu vois, je l'ai réengagée dans Vue du Pont. Puis bon, on sait maintenant la carrière qu'elle a, la belle Mylène. Mais tu sais, elle est vraiment... C'est une comédienne extraordinaire
ben, oui.
qui a mis le temps en formation. Elle a
c'est quoi, c'est une autodidacte?
Oui. Puis elle a suivi des cours de pose de voix, des cours de... Ben, elle avait déjà quand même une bonne formation au niveau des chorégraphies, mm-hmm. parce qu'elle avait fait un film où elle était danseuse. Mais elle a été extrêmement disciplinée. J'avais engagé le premier rôle au théâtre de Pascal Bussière, c'est moi qui lui ai donné
c'est
dans
Gaëlle,
dans Les sorcières de Salem. Et Pascal Bussière était pareil, je veux dire, elle a suivi des cours. Elle a, c'est des gens qui sont très sérieux, elles sont très sérieuses, ces femmes-là, pour arriver à répondre aux exigences d'un métier qu'elles ne connaissent pas. Et là, je viens de le faire, mais ça tombe bien parce que c'est Jean-Baptiste Poquelin. On n'a jamais vu Molière sur la scène du TNM, on ne l'a jamais... incarné, c'est quand même événementiel pour moi, en tout cas pour le TNM.
Mais c'est super que tu fasses ça. Oui, parce qu'en plus des auditions...
Ça va me faire découvrir du monde.
Surtout quand on a 30, 46 ans de métier, ça met au défi nos certitudes aussi.
Oui.
De faire ça, je suis sûr que ce rôle-là, c'est pour tel acteur.
Ouais.
Moi, maintenant, ça m'arrive, hein? Je suis pas fou, là.
Moi aussi, j'aurais quelqu'un...
Hein? Toi aussi? Super.
J'aurais pu distribuer Molière demain.
Ben, c'est sûr.
Là, j'ai fait non, je vais découvrir des jeunes acteurs.
Exactement.
Lorraine a eu un rôle extrêmement important au théâtre. Ce qu'on dit du cinéma, c'est que c'est un art, mais c'est aussi une industrie. Mm-hmm. Quelqu'un a dit ça, je pense que c'est Malraux qui avait dit ça.
Et t'as
amené le côté business savvy, comme on dit. Là. Il faut qu'il y ait des abonnés, il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Moi, je suis un fan du TNM, c'est pas parce que t'es là, je suis un grand fan du TNM parce que je trouve que c'est un équilibre parfait et c'est pas évident comme exercice entre... Là, on va les pousser un peu. Là, ça va être un peu exigeant. Ça va être mais là, il va y avoir un succès ici. Là.
Populaire.
Il va y avoir des vedettes.
C'est ça que tu me disais.
Le côté, là, jouer là, sur un fil de fer entre l'art avec un grand A puis l'art populaire, le TNM fait ça parfaitement.
Ben, moi, merci. C'est ce qu'on cherche.
Mais c'est pas évident.
Non, ben, moi, c'est Vitesse avec l'art élitaire pour tous. En fait, ça vient de Villard puis ça a été repris par Vitesse. Qui est un grand metteur en scène, directeur
du Antoine Vitesse, puis Jean Antoine Villard. Ouais.
Et c'est une devise pour moi, parce que ça existe. L'art élitaire pour tous, ça existe. Parce qu'il y a un moment où les gens disent « Ah, j'ai compris quelque chose dans une pièce tellement compliquée, mais comment ça se fait que j'ai tout compris? » Bien, parce que c'était mis en scène, puis c'était joué pour que tu comprennes tout. Puis à un moment donné, tu te sens très intelligent quand tu sors de ce type d'expérience théâtrale. C'est la fonction du TNM, mais à mon avis, c'est la fonction du théâtre. Il y a comme une espèce de patte, je m'excuse de le dire, mais au TNM, il y a une espèce de modèle auquel on adhère depuis plusieurs années, puis qui est cette espèce de tension entre le risque et le
ouais, mais ce qui est intéressant, ce qui est intéressant au TNM, et particulièrement chez toi, Lorraine, puis encore une fois, je te retourne le compliment tout à l'heure.
On s'est jasé tous les deux
c'est
à un moment donné. Sur,
d'habitude, la direction générale, la direction artistique est une bête bicéphale. Et qui se joue l'un contre l'autre, ou pour le moins, en tout cas, qui se regarde en chaîne de faïence.
C'est quoi, le business et la création.
Voilà, c'est
Mais
ça.
Oui,
et Lorraine fait une chose qui, pour moi, est essentielle dans notre métier, c'est de ne pas considérer la business en théâtre comme quelque chose de périphérique à l'art. C'est le contraire. Il faut maîtriser ça, il faut l'assimiler, et il faut que l'art en fasse partie pour la faire, pour la façonner pour l'art aussi. Et ça, c'est une chose extraordinaire que tu fais, parce que c'est vraiment...
Après 27 ans!
Mais écoute, c'est un amalgame à la fois de gestion, de création de valeur pour tous les parties prenantes, à la fois financières, mais artistiques aussi, et aussi les parties prenantes, ton public en fait partie, de ces parties prenantes-là.
Oui, puis les commanditaires.
Et les commanditaires et tout ça. Et il y a un amalgame, tout ça, l'art est imbriqué dans tout ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de phénoménal.
Et qu'on apprend sur le terrain. Hein.
Mais
je pense pas que ça s'enseigne dans les écoles en ce moment.
Mais je me rappelle de Wajdi Mouawad, qui à un moment donné avait monté une pièce au TNM. Et au TNM, la façon pour les gens qui nous écoutent et qui n'avaient peut-être pas au courant, mais au début, il y a des panneaux sur le côté avec des, c'est comme des tréteaux, là, c'est comme un truc en bois, et le nom des commanditaires est inscrit là. Et Wajdi Mouawad est arrivé, puis là, il avait écrit un texte, puis là, il disait, les commanditaires, c'est de la marde, puis moi, j'haïs ça, puis là, j'ai l'impression de me prostituer, puis on est des guidounes, puis là, c'était...
Les pétasses avec des cellulaires.
Les pétasses...
C'est ça qu'il avait dit du public dans la
cellulaires.
Salle. Pour des pétasses avec des cellulaires.
Et moi, je trouvais ça d'un mépris du public.
Mais toi, tu devais être dans tes petits souliers, tu devais être mal.
Tu sais, je sais pas si tu... En tout cas, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'ils avaient reproduit le texte de Wajdi.
Dans le programme.
Qui est un polémiste, on le sait, c'est un pamphlétaire, c'est un être d'une intelligence supérieure.
On aime ça, les polémistes.
Puis moi, j'avais quand même réussi à répondre correctement, parce que ça avait fait son œuvre. Et ça a été en lettre ouverte dans la presse, nos deux visions de la chose.
Excuse-moi, est-ce que tu le savais qu'il allait faire cette sortie-là?
Non.
Donc, tu as eu besoin d'un défibrillateur ou un...
Ça ne doit pas faire un beau réveil le matin.
Mais je n'étais pas la seule. Hein. Toute l'équipe de production avait trouvé que c'était un poignard dans le dos. Là. Personne ne s'attendait à ça.
Un poignard dans le dos.
Ben, personne ne s'attendait à être sur une sellette tout à coup comme étant les acteurs sur scène. Comment tu penses qu'ils se sentaient?
Je veux dire, ils ne savaient pas.
Non, pas du tout. Alors, ils se sentaient comme s'ils avaient entériné les efforts de financement privé que le TNM faisait pour arriver à produire des spectacles comme Don Quichotte, qui coûtait quand même assez cher. Ouais. Et ça crée une scission entre Dominique Champagne, d'ailleurs, et Wajdi. Et à un point que Dominique a pris le projet à bras-le-corps, puis il l'a fait, puis ça a été un des grands, grands, grands succès du TNM. Mais c'était irréconciliable à cette époque-là. Sauf que ce qu'il faut dire, puis je me permets de le dire, gardez-le, Wajdi, après ça, a dirigé le 4 sous. Et là, il s'est retrouvé avec des impératifs financiers comme ceux avec lesquels je devais composer. Et ça a été le premier à, entre autres, innover en créant des bingos avec des entreprises privées pour financer son théâtre. Et je suis allé à un bingo à un moment donné.
Est-ce que tu riais?
Attends. T'es allé à un bingo?
Je suis allé.
Dans ta
je voulais dans aller au bingo. Ouais. Puis, j'ai à un moment donné, après le bingo, j'ai fait, je dis, quand même, t'as pas mal d'entreprises privées dans ton bingo. Comment tu te sens? Puis il m'a dit, j'ai pas le choix, il faut que je finance le 4 sous. C'est exactement ma position dans Don Quichotte. Mais c'est pas quelqu'un qui va s'excuser ou dire, j'aurais pas dû. Non.
Mais ça, c'est très drôle parce que je trouve que...
outré, là, je voulais... Parce que, à mon avis, tu dis, regarde, nous, on est financés à 25% par l'État. Le reste, c'est du revenu, billetterie.
On ne crache pas dans la soupe.
Ben, on essaie de le faire tout en étant noble. En gardant une dignité, une fierté, puis en vendant... Tu sais, je ne mettrais pas un logo sur le rideau du TNM de n'importe qui.
Tu ne feras pas de placement produit dans Don Quichotte.
Non.
Ils ne boiront pas du coke.
Puis il n'y aura pas d'auto dans le hall d'entrée. Là. Non. Il y a des limites qu'on ne franchira pas. Mais il y a des choses, je pense, qui sont élégantes.
Mais en même temps, je te dirais...
Il a changé. Et loin. Oui, quand même lui accorder ça, parce qu'il dirige la colline en ce moment en France, qui n'ont pas le même rapport avec les entreprises privées, on s'entend quand même. Mais il voit ce que c'est que de financer...
Voilà.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mais moi, je suis surprise quand même parce que tu nous racontes que l'affaire avec Wajdi, ça a été ta première controverse. Mais vous vous êtes manifestement réconcilié à un moment donné avec Wajdi.
Avec la trilogie des femmes,
oui. Avec la trilogie des femmes.
Oui, oui. Mais moi, j'ai toujours trouvé que Wajdi a un talent fou.
Mais absolument. Mais moi aussi, comme auteur et comme... Écoute,
j'aime mieux reconnaître le talent que la polémique qui nous a divisés il y a quelques années, tu sais.
Mais ça t'a amené une autre controverse.
Il y a dû avoir une conversation, j'imagine, à un moment donné.
Mais c'est pas ça, écoute. Il le sait, puis tout le monde, enfin, toute mon équipe le sait. Pour la petite histoire, c'est que... On est très intéressé par, évidemment, tout son projet Sophocle, les 7 pièces qu'on connaît de Sophocle. On se rencontre au café. Et là, il me dit, écoute, je veux Bertrand Cantat pour la musique de la trilogie des femmes. Je fais, waouh, quelle bonne idée! Et là, je suis vraiment enthousiaste. Puis je fais, mais tout est réglé, là. Je dis, il a purgé sa peine. Il est en réhabilitation. Il dit, oui, je lui écris des chansons en ce moment. On est très liés, on est presque amis. Je dis, écoute, c'est quand même significatif. Il va porter sa voix en catharsis pour défendre la violence faite aux femmes, alors que c'est un homme qui a tué sa conjointe dans un état, il faut le dire, d'ébriété ou de drogue avancée.
Les deux.
Quand même. Je pense que Marie Trintignant est à peu près dans le même état que lui.
Mais ça n'est pas accepté en cours. Hein. C'est plus accepté en cours, ça. Là.
Ouais.
Je l'ai dit parce que j'étais sous, c'est plus accepté en cours.
Non, c'est ça.
Mais j'étais tellement... ben, premièrement, c'est pas parce que je voulais qu'on fasse un coup de publicité avec Bertrand Cantat, c'est que moi, j'adore toujours Noir Désir. Fait que je suis là, waouh, quelle belle idée. Je vais en Grèce pour le voir au théâtre Hérode Atticus sur l'Acropole. Il vole le show, il est extraordinaire. Écoute, c'est vraiment magique. C'est un performeur, il a un charisme incroyable. Puis la pièce est bonne, tu sais. Puis je fais « wow ». Mais aucune... Écoute, zéro...
Tu l'as pas vu.
T'as pas pensé deux secondes.
Jamais je me suis dit que ça allait être problématique. J'en ai même pas informé le CA. Tu sais, moi, je présente la saison. J'ai même pas dit « by the way, c'est Bertrand Cantat qui va faire la musique de la Tragédie des femmes ». Tellement j'étais... Mais je m'en veux parce que...
Mais est-ce que
je...
tu te trouves naïve aujourd'hui
oui,
quand tu y repenses?
Oui, un peu. Oui. Un peu. Parce que j'aurais dû quand même prévoir que... tu sais, la violence faite aux femmes, même si c'est pas un meurtre en série, mais c'est quand même un meurtre que, pour toutes les raisons que l'on connaît...
Moi, écouter Noir Désir, j'ai aucun problème. Je réécoute.
Mais c'est ça qui était.
Je revois des films de Roman Polanski, même s'il a violé et drogué une jeune fille de 13 ans.
Oui.
Et je revois des films, mais être devant le gars puis l'applaudir alors qu'il est là devant moi, j'aurais beaucoup
de difficulté. Je comprends maintenant.
J'aurais énormément
de difficulté. Je comprenais pas ça à l'époque. Ouais. J'ai pas vu ça.
Alors qu'il est là, là. Ouais.
J'ai manqué de flair. Je pense que je l'avoue, j'ai manqué de flair. Je suis allée vraiment dans l'accompagnement artistique, là. 100%. Mais... Moi, je dis, me le propose. C'est fondé. L'intention est bonne. Le gars a du talent. Allez, j'appuie la démarche artistique. Et c'est ça que j'ai appuyé jusqu'à la fin quand je me suis fait... j'avais l'impression d'être présidente des États-Unis. Il y avait 50 médias devant moi qui attendaient ma déclaration pour dire, est-ce qu'on vous allez faire le spectacle? Allez-vous le jouer avec Bertrand Cantat?
C'est quand le moment où tu as senti que la vague tournait?
Ben, j'avoue que quand c'est devenu politique, là... Ouais. Et que là, il y avait au fédéral d'empêcher Bertrand Cantat de fouler le territoire canadien et qu'il y avait les manifestations des groupes féministes, alors que je me considère comme très féministe, et que c'est surtout le fait qu'ils aient défendu l'accès au territoire canadien à Bertrand Cantat. Là, j'ai dit à Wajdi, écoute, on peut pas mener la lutte. Non. Ça se peut pas. Je veux dire, on va pas s'opposer à cette loi-là. Puis mon conseil d'administration a été extrêmement compréhensif. Il m'a dit, Mme Pintal, vous devez jouer le spectacle, mais sans Bertrand Cantat. J'ai dit, ben écoutez, c'est la décision. Puis c'est une décision qui nous est imposée aussi par des gouvernements.
Mm-hmm. Ouais.
Et donc, on va accepter. Puis j'ai dit à Wajdi, sois content qu'on joue ton show. Puis on va le jouer avec quelqu'un d'autre, tu sais. Mais il m'en a voulu. Mais il l'a fait quand même au CNA. Il l'a joué sans Bertrand Cantat. Puis là, pendant ce temps-là,
qu'il trouvait que tu étais ferme, que tu étais
bien, que j'avais accepté de présenter le spectacle sans Bertrand Cantat. Puis en même temps, Avignon, Jean-Louis Trintignant se retirait du festival parce que Bertrand Cantat devait jouer la trilogie des femmes. Jean-Louis Trintignant n'était pas dans la programmation officielle, mais il voulait pas se retrouver dans un même festival avec Bertrand Cantat. Alors, mais là où j'ai été malheureuse, c'est que la perception que les gens aient eue de moi, c'est que j'entérinais le fait que ce gars-là, tueur de femmes, pouvait se retrouver sur une scène au TNM. Alors que moi, je crois en la réhabilitation. Je l'ai dit, j'ai défendu devant Jocelyne Robert, j'ai défendu ce point-là en disant, si on ne donne pas une chance à quelqu'un qui a commis un geste irréparable, de retrouver sa place dans la société.
Ce sont des bonnes questions.
C'est quoi l'avenir?
Mais c'est pas un plombier, c'est pas un mécanicien, c'est quelqu'un qui est sur scène qui se fait appeler.
Je le sais, mais...
Est-ce qu'on a le droit de... Moi, un de mes cinéastes préférés, c'est Polanski.
Oui, tu l'as dit tout à l'heure.
C'est ça, non, mais Dieu sait que c'était...
Tu le répètes et tu fais bien.
Mais oui.
Tu sais, toi, ton écrivain préféré...
Ah oui?
C'est Céline.
Ben oui, imagine.
Le jouet de Pierre-Richard joue un petit employé d'une entreprise. Son patron le fait venir dans son bureau et lui dit « Je veux que vous mettiez à poil. » Et là, il dit « Pardon. » Il dit « Mettez-vous à poil. » Et là, Pierre-Richard commence à se déshabiller. Et là, son patron lui dit « Arrêtez. » Il lui dit cette phrase « Quel est le monstre? Moi qui vous demande de vous mettre à poil ou vous qui acceptez? »
La servitude volontaire.
Et là, je pose la question.
Oui, vas-y.
C'est une chose de dire... censurer cette pièce, enlever-la, mais que les entreprises acceptent. que les entreprises plient les genoux. Non, c'est ça le truc. Pourquoi une entreprise a plié les genoux? Pourquoi juste pour rire? Pourquoi le Festival de Jazz a dit oui, on le fera pas? Il aurait dû se tenir debout.
Oui, mais c'est par répercussion, je crois. Je veux pas parler en ton nom, Lorraine, mais.
Vas-y, vas-y, parce que moi, je me suis beaucoup prononcé là-dessus. Yeah. Ça m'a mis dans une situation délicate avec le jazz.
C'est que si, exemple, si prenons un autre festival et prenons une autre compagnie théâtrale qui est complètement autonome financièrement. Elle peut faire,
ce qu'elle veut.
Excusez-moi l'expression, fuck you, on va jouer cette pièce-là. Vous n'êtes pas content, mais tous les soirs, vous serez devant, vous manifesterez.
Nous, c'était notre position.
Ouais. C'était votre position.
Mais à partir de là, ça marche. Mais à partir de là, peut-être que l'autre partie a
Nous, on n'était pas producteurs.
On n'avait pas le droit de décision.
Vous étiez la salle de spectacle, c'est tout.
Mais là, ton commanditaire, lui, t'appelle. Il fait, là, moi, je te le dis, je ne veux pas être associé à cette affaire-là. Là. Là, tous les gens associés à ça sont traités de racistes.
Des producteurs américains qui interviennent aussi.
En plus, exactement. Là, c'est des répercussions. Des
partenaires américains qui ont
réagi. Pourquoi les commanditaires se sont désistés?
Parce qu'ils ne voulaient pas être associés à
c'est juste par ça.
Ce qu'on pensait qui était du racisme volontaire. Et aux États-Unis, c'est ça. Les médias américains se sont emparés aussi de l'histoire entre le festival de jazz, accusé de... Fait que là, ça ne marchait plus, là, tu sais. Ça fonctionnait plus. Je peux toujours comprendre la décision.
Tu lances pas la roche.
Je peux comprendre la décision du jazz. Moi, je l'ai pas approuvé. Ils le savent. Je leur ai envoyé. Moi, j'étais à Avignon. Hein. Je venais d'arriver à Avignon. Si j'avais été à Montréal, Dieu, que j'aurais aimé ça être à Montréal.
Mais un an plus tard, quel bilan tu gardes de ça?
Si j'avais été à Montréal, puis ils le sait, le jazz le sait, ils sont au courant. Je me serais battu bec et ongle pour qu'ils n'annulent pas. Je ne voulais pas qu'on annule.
C'est une défaite qu'ils aient annulé.
Oui, moi, je trouve que c'est une défaite. Je comprends les excuses. Je ne prenais pas les excuses.
Ben là,
je dis, on s'excuse de quoi? Ça n'a rien à voir. Le spectacle n'a pas été vu par personne. Il n'y a pas de raison de censurer un spectacle avant qu'il soit vu. Moi, j'ai défendu la liberté de création. J'ai défendu Robert. Ce spectacle avait le droit d'être vu par beaucoup de monde. Puis après ça, on va créer le dialogue. Allons-y. Parlons-en. On a peut-être eu des torts, ça se peut, on va les avouer, mais parlons-en. Mais devant un spectacle créé et diffusé...
Et que les gens ont vu.
Et que les gens ont vu. Hey, écoute, il y a 15 000 personnes à qui on a dit « Votre billet n'existe plus, c'est fini. »
15 000 personnes.
Oui, c'est nous qui avons hérité de la... De cette responsabilité de dire aux gens, je m'excuse, mais le spectacle est annulé,
mais
alors qu'on se l'est fait imposer par un communiqué.
Oui,
et je ne le prends pas. Et c'est très dangereux ce qu'on a fait. C'est qu'on a mis le bras dans l'engrenage d'une censure par un groupe minoritaire de gens qui disent « Ce spectacle-là n'a pas le droit d'être sur scène et c'est ce qui est arrivé avec Canada. »
Et ce, à tort ou à raison.
Mais c'est... Non.
Qu'ils aient raison ou tort,
hey, à la laissez rigueur, le spectacle jouer.
Tu peux pas dialoguer avec quelqu'un qui commence la discussion en disant « Tais-toi. »
Non, mais non. Tu as tout à fait raison, Serge.
Pas.
Avez-vous vu Canada au soleil, la page au soleil, le documentaire?
Non,
allez le voir.
On va aller
parce qu'on a accusé Robert d'avoir mis de côté la réalité autochtone.
C'est bien ce documentaire-là.
Ah,
j'avais peur que ça soit trop de l'autre côté.
Pas du tout. C'est avant qu'on apprenne que Robert allait se retirer de Canada, puis que Mnouchkine allait insister, puis que le spectacle allait avoir lieu, puis que ça allait prendre le nom, le titre de Canada ou...
La controverse.
La controverse. Et... tu vois toutes les étapes de création où Robert a consulté des Autochtones, est allé à Banff, est allé rencontrer des Autochtones de Vancouver, de Montréal, pour que les Français connaissent mieux la réalité. Bien sûr, c'était pas des Autochtones, mais en même temps, eux sont des Autochtones en Algérie, dans les pays
nord-africains. Mais oui, la troupe du soleil de Mnouchkine, c'est des gens, il y a comme 34 nationalités
complètement.
Différentes.
Puis il y a des gens qui voyaient ce qui s'était passé au moment des pensionnats autochtones qui ont été vraiment... c'est une honte pour le pays, c'est sûr.
Totalement.
Et qui disaient, mais je me reconnais, moi aussi, je me suis retrouvée, mes parents se sont retrouvés dans un pensionnat en Algérie, alors que... ils étaient complètement expulsés du monde parce que ils étaient des métis. En fait, ils n'étaient pas de la race pure ou dominante. Et c'était tellement touchant de les voir s'approprier la cause autochtone pour mieux la traduire sur scène. Écoute, c'est une richesse incroyable. Ouais. C'est de l'appropriation culturelle dans le bon sens du mot.
Ouais.
Et moi, j'ai dit à Robert, quel bonheur! Je veux dire, ça, là, c'est un signal que tu envoies pour
dire... Lui devait être sonné.
Ils ont été sonnés à juste titre. Mais Robert est fort. Robert est rayonne à travers le monde. C'est planétaire. Puis il fait, c'est ça. Mais moi...
Lorraine, à moins que je me trompe, mais dans jouer quelqu'un, il y a le mot « je ».
Ben oui, de comme jouer. Disait si bien Robert,
jouer.
Et oui, je deviens un autre. Pour paraphraser Arthur Rimbaud, je est l'autre. Ouais. Alors, tu sais, ben oui, on joue, c'est un jeu.
Certaines personnes disent que je suis fermé, je vais faire l'avocat du diable. OK, je me mets dans le soulier de certaines personnes en disant qu'il y a un manque de représentativité des communautés culturelles. Et on le voit, tu regardes le CBC, tu regardes la CTV, tout ça, les communautés culturelles sont beaucoup plus représentées à la télévision, entre autres, que chez nous. Bon,
On s'entend.
Cela dit, deux choses. On connaît quelqu'un qu'on ne nommera pas,
oui.
Mais qui a un rôle important à Radio-Canada, mm-hmm. qui est noir, qui aime beaucoup la culture, mm-hmm. qui aime beaucoup le théâtre, mm-hmm. qui va au théâtre régulièrement et dit « Je suis souvent, la plupart du temps, le seul noir dans la salle. Les noirs ne vont pas au théâtre. » Bon, peut-être qu'ils ne vont pas au théâtre parce qu'ils ne se voient pas représentés sur scène, peut-être. Oui. Mais d'un autre côté, il y a un gars qui a fait un film, un gars très talentueux, qui a fait un film qui s'appelle Noir, qui se passe à Montréal-Nord. Et lui, son idée de départ, c'était « Je vais avoir un casting 100% noir. » Bravo, fantastique. Sauf que le film est très mauvais. Sais-tu pourquoi? Les comédiens sont pas bons.
Oui.
Les comédiens... T'as 3-4 bons comédiens, puis tout le reste, il est allé chercher des amateurs qui sonnent amateurs et qui sont pas bons. Et là, quand toi, t'es metteur en scène, tu veux faire un show, tu veux mettre des bons comédiens sur scène. Mais là, c'est pas vrai que tu vas dire, je vais lui donner un rôle parce qu'il y a de la bonne couleur, mais il est pas bon, mais il y a de la bonne couleur. À un moment donné, tu vas avoir des bons comédiens. Mais s'il y en a pas beaucoup...
Je me suis retrouvé confronté à ça, moi, pour... j'ai fait Fame, là, il y a le personnage de... Mon Dieu, ça fait déjà un an, je me souviens plus du nom du personnage. qui doit être joué par un jeune noir.
Ouais.
Quand on lit le texte, il nous donne l'opportunité d'en faire un jeune blanc. Dans le sens qu'au lieu de s'appeler, je ne me souviens plus de son nom, il l'appelait Dabrowski, ou d'en faire un slave, en fait. Et j'ai fait, non, attends, pour une fois qu'il y a un rôle principal pour un jeune noir, ce n'est pas vrai que je vais faire, je ne me forcerai pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Mes auditions sont ouvertes, je vois 1100 personnes en audition. D'accord? Et là, c'est dans le journal de Montréal. C'est partout, là. C'est pas juste j'appelle des chums, là. Non. C'est partout. C'est dans les journaux, partout. En plus, c'est connu. C'est la troisième année que je fais ça. Parfait. Des garçons noirs, j'en ai vu moins de... Ouais, probablement 5 ou 6 seulement.
Là.
Malheureusement, ils n'étaient pas outillés parce que il suffit
faut
pas que tu saches jouer.
Ouais.
Ce personnage-là doit être un jeune noir. Les professeurs se battent dans l'école pour le garder. Il est illettré, mais c'est un danseur tellement... hors norme, que même dans le texte, c'est dit, des gens comme ça, dans une école de théâtre à New York, il en passe une fois par 20 ans. Mmh. On ne peut pas le laisser partir.
On se souvient du film. Je me souviens du personnage dans le film.
Voilà, exactement. Donc, il est clair qu'il faut que ça soit un danseur hors norme, que ça soit un acteur aussi, et un chanteur. Il a 3 ou 4 solos de chant. Oh, ouais. Malheureusement, ils ne sont pas outillés pour le faire. Je les vois en audition. Parce que, en plus, je fais de la discrimination inversée, c'est-à-dire même si au démo de voix, parce que la première des choses qu'on fait, moi, je ne lis pas les CV, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu as fait avant et tout ça, ça ne veut rien dire pour moi. Parce qu'exemple, Joël, je ne l'aurais pas engagé.
Oui. Non, elle n'avait pas d'expérience.
Zéro expérience.
Romane
Denis, qui a le rôle principal dans Mamma Mia, c'est la première fois qu'elle monte sur une scène de sa vie. Attendez de la voir, vous me direz ce que vous en pensez.
Okay.
Vous me direz ce que vous en pensez. Bref, tout ça pour dire que, moi, on écoute les démos de voix. On se tape 1000 démos de voix pour savoir si au moins. Ils n'étaient pas vraiment outillés pour ce que j'avais besoin, mais j'ai fait, c'est pas grave. Let's go. On va mettre une équipe autour, on va essayer de façonner quelque chose. Malheureusement, ils ne l'avaient pas. OK. Là, je fais, oh boy, on a un problème. On appelle les producteurs à Toronto des Mervish.
Mon Dieu!
D'accord? On a des liens avec eux. On a fait, écoutez, pouvez-vous checker de votre bar ou dans le reste du Canada? Parce qu'il y a une grosse communauté, de musicals à Toronto, mais à Calgary aussi, tout ça.
Okay.
Pouvez-vous checker de votre bar, voir si ils nous sont venus avec 0 nom?
Hein?
Oui, ils sont tous anglophones.
C'est ça.
Et ils refusent de parler français. Mais pas par chauvinisme anglophone, pas du tout. C'est simplement parce que plusieurs là-dedans sont d'origine haïtienne. Donc, ils ont des notions de français, mais ils sont gênés de parler français et ils se sentent pas à l'aise, parce qu'ils parlent qu'anglais dans leur vie, d'aller jouer en français. OK, je fais bon. J'appelle Jérôme.
Jérôme Pruneau.
De Diversité Montréal. Avec qui j'étais sur le comité de diversité du 375e, avec lequel j'étais mangé, qui m'avait tout expliqué, la difficulté aussi. Ouais. J'appelle Jérôme, je fais « Jérôme, voilà, j'ai besoin de ci, ça. Peux-tu m'aider? » Il faut qu'il soit un jeune noir, début vingtaine, qui danse, qui chante, qui joue. Il fait « C'est super. » Parce que lui m'avait expliqué, Jérôme, et j'avais compris ça, j'avais été mangé avec lui, que les canaux de communication qu'on utilise, nous, pour exemple, nos auditions, ce ne sont pas des canaux qui rejoignent dans les communautés culturelles.
Mais ça, c'est très juste.
Alors, il y a des influenceurs, des passeurs de relais dans les communautés.
Oui.
C'est à eux qu'il faut donner l'information. Eux, ils vont dans les communautés. Alors, voilà, je l'appelle. Il fait, c'est super, Serge, que tu m'appelles, je te reviens. Jérôme a fait un travail et tout ça, son équipe aussi. Ils sont venus avec 5 CV. Avec 5 noms et coordonnées. J'ai appelé ces 5 personnes... Et je leur ai dit, voilà, vous m'envoyez un démo de voix et juste un petit un truc avec votre iPhone, tournez-vous, juste en train de chanter, de faire un petit monologue d'une minute. Je veux juste voir, vous chantez ce que vous voulez, vous jouez ce que vous voulez. J'en ai reçu un.
Yeah.
Et la personne avait à peu près mon âge.
Non, ça marche pas. Là, c'est la poule.
Il y a une revendication en ce moment, Jérôme Pruneau en tête, de la part des artistes dits de la diversité, et des peuples autochtones, parce qu'il faut maintenant ajouter ça à notre
libellé.
C'est que, puis nous, on est de cette école-là, là, le TNM. C'est le blind, comment t'appelles ça?
À l'aveugle.
Oui, c'est-à-dire
le casting
ne pas
à l'aveugle.
Être casté pour la couleur de ta peau ou pour ton origine.
Super.
Alors là, c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent plus, de ce que je comprends, moi, des auditions qu'on a passées.
Ben, coriolan.
Ben oui. Ils ne veulent plus être distribués dans des rôles où la couleur prédomine, où leur origine culturelle prédomine. Alors, maintenant, nous, ce qu'on entend, c'est que, justement, je me suis posé la question à Alain Gravel le matin, est-ce que vous pourriez engager un acteur noir pour jouer Molière? J'ai fait, écoutez, il n'y a aucun interdit
ben
en ce moment.
Mais là, tout est ouvert. Il existait, Molière, oui. Il était blanc. Oui. On va prendre le noir pour jouer René Lévesque.
Mais c'est ça, c'est pas un personnage imaginaire.
Oui. Mais gars, j'avais pas envie de partir la polémique.
Si on prenait un blanc pour jouer Nelson Mandela.
Non, mais par contre.
On va prendre un blanc pour jouer Nelson Mandela.
Non,
on verra comment ça joue.
Non, mais je pense pas que Molière va jamais être joué par un noir. Mais par contre, la troupe de Molière, dont on connaît, nous, les personnalités, j'ai complètement ouvert la porte en disant, pourquoi il y aurait pas une noire qui jouerait Mademoiselle Debry?
Aujourd'hui,
mais ce que j'aime de leur mentalité ou de leur quête en ce moment, c'est que justement, ils veulent jouer des rôles de blancs, ils veulent jouer des rôles d'indiens, ils veulent jouer des... Peu importe ce que Peter Brook fait depuis des années, nos catégories sont dangereuses.
Ouais.
On peut pas demander à un transgenre de jouer un transgenre si c'est pas un acteur. Reconnaissez le talent de l'acteur à prendre la peau de l'autre.
D'abord, ça prend un acteur.
Ça prend un acteur.
C'est ça.
Ça prend
de toute façon,
l'acteur est capable de jouer
quelqu'un qui
n'est
pas un plombier qui joue un plombier. Tu prends quelqu'un qui n'est pas médecin et toi, tu as joué dans l'urgence. Est-ce que je sache, tu n'étais pas un chirurgien ou tu n'étais pas un bon?
C'est très drôle. J'avais répondu ça à une journaliste à un moment donné. J'avais gagné un prix pour Ouattata. Quand je suis sorti de l'école, j'ai joué un personnage homosexuel. Et j'avais gagné le prix arc-en-ciel.
Gay macho, d'ailleurs.
Gay macho, les deux. Et je suis pas homosexuel.
Et t'es pas macho.
Et quelques jours après, je fais une entrevue avec une journaliste qui me dit, mais écoutez, j'ai su que le personnage que vous avez eu par audition pour votre tata en sortant de l'école, plusieurs artistes connus l'ont refusé, en fait. Et c'est vrai. Il y a plusieurs acteurs à l'époque qui étaient connus qui l'ont refusé. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur d'être associés à ça. D'être associés à l'homosexualité.
Catalogué, c'est le cas
de dire. Puis il dit, vous avez pas peur d'être associé à ça? J'ai dit, vous m'avez vu dans l'urgence? Elle a dit oui. J'ai dit, je joue un médecin, pensez-vous que je suis un vrai médecin? Elle a dit non. Pourquoi vous pensez que je couche avec des gars, là? Je comprends pas.
C'est un acteur.
Je suis un acteur. Moi, mon fun, c'est d'être ce que je suis pas.
Tu n'as jamais hésité une seconde.
Ah, mais au contraire, plus c'est loin, plus c'est une affaire que je suis pas, plus la pire des propositions, et d'ailleurs que je refuse, c'est quand tu me demandes de jouer Serge.
Ouais.
Ça m'intéresse pas.
Mais t'as tellement raison, Serge.
Ça m'intéresse pas. Aucun intérêt.
Tu connais tellement dans la vie, tu vis avec toi tous les jours.
Oh, j'ai de la terre
à manger. Au niveau un dessert,
moi, je suis pas sucré.
T'es pas sucré, mais on peut.
Moi non plus, mais je voudrais pas vous offusquer.
Ah, ben là.
Ah, Serge est sucré.
On a passé l'après-midi à le présent.
C'est-tu vrai?
ben moi, ça m'intéresse, Serge. Je trouve que c'est un bon acteur. Ça serait quoi ton rêve d'acteur, toi? Disons qu'on t'acceptes de consacrer 6 mois de ta vie à un rôle.
Alceste.
Ah, tu vois, ça m'étonne pas.
Alceste.
Ça m'étonne pas du tout.
Alceste.
Ah, c'est sûr.
Molière est pour moi quelque chose.
Oh, oui, toi, c'est un aboutissement total.
Ça, c'est. Ouais.
Alors, ça, sa bicyclette, le film.
Oui, avec.
Avec monsieur.
Lambert-Nisson, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'échanger sur Molière avec lui.
Ah, oui.
Écoute,
il
m'est arrivé. J'ai-tu 3 minutes, vous comptez
ben,
ça?
Ben, oui, tout le temps que tu veux. Vas-y. Hey,
à un moment donné, je reçois un appel de Fabrice Luchini. Qui me dit, écoutez, Gilbert Rozon, je lui dis que je tourne un truc sur Molière. Je tourne une émission ou un film ou je ne sais pas quoi sur Molière. Et je suis ici et je lui dis avec quel acteur je pourrais échanger sur Molière. Et entre autres, j'ai demandé à plusieurs personnes et à Gilbert Rozon aussi. Votre nom est ressorti plusieurs fois.
Hein?
J'ai fait oui, oui.
Merci.
Ouais, c'est une joke. J'ai failli raccrocher. Non, non.
Puis...
Et donc,
qui êtes-vous?
Oui, Fabrice Luchini.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est Marcel Bélimo. C'est Marcel Bélimo.
Et donc, il me donne rendez-vous dans un café.
Tu ne l'as pas rencontré?
Ah ben, j'ai pas juste rencontré. Je suis resté 3 heures avec lui, assis à une table. Attends, j'arrive là, et il y a l'équipe de tournage.
Bonjour.
Et là, je suis dans un café sur le plateau Montréal avec lui. Et on jase du métier, et on jase de toutes sortes d'affaires. Et il a une pile à côté de lui d'œuvres, les œuvres de Molière, tu sais.
Ben, voyons.
Et on jase, comme ça, pendant je sais pas combien de temps, peut-être 1 heure. Puis moi, il fait, tu veux qu'on se lise des trucs? Je fais, oui. Moi, j'ai l'incontinence qui me menace, tu comprends? Et là, il dit, qu'est-ce que t'as envie? Et là, il dit, quel rôle t'aimes? J'ai dit, moi, le misanthrope. Il fait, parfait, tiens, parfait. Il dit, quelle scène? Ben, je fais, je sais pas, la scène au ciel de mes transports, puis j'étrisse le maître. Parfait, super. C'est acte 2, scène 1. Oui, d'accord. OK, parfait. J'ai dit, est-ce que vous avez une copie? Je dis, ça va. Il dit, tu veux jouer qui?
Ben, voyons donc.
Oui, il dit, tu veux jouer qui?
Ben, Alceste.
Ben, je fais Alceste. Parfait, je fais Célimène. Go.
Et il a été ta Célimène.
Attends, il a été ma Célimène. Et après, il fait, OK, maintenant, tu fais Célimène. Go. Toujours pas le livre, hein.
Il fait toi, ça. Fallait que tu le connaisses par cœur.
Straight pipe. Mais moi, j'ai beaucoup lu Molière.
Okay.
Donc, je connais pas par cœur. Mais...
Ouais, tu te débrouilles.
C'est pas de la lecture à première vue, mettons. Tu sais, fait que je me débrouille. Puis l'Alexandrin est une chose que j'aime. Une chose...
Il y a
un défi là-dedans. Il y a un défi dans la compréhension de tout ça. C'est quelque chose que j'aime.
La musique de
l'Alexandrin. Et là, avec lui, pendant 2 heures, on a lu du Molière.
Voyons donc.
Et tout ça. Et après, c'est Stéphane Bureau qui l'a reçu pour les grandes entrevues, je crois.
Mm-hmm.
Et il a demandé à ce que je vienne. Je suis venu. Et avec lui, on a lu Molière aussi pendant cette... Et je l'ai trouvé vraiment super comme type. Parce qu'il aurait pu me manger tout rond. Hein. Dans le sens que... il aurait pu, par son érudition, me manger, là. Aller me chercher, là. Aller me...
m'étourder.
Tu comprends? Il aurait pu me...
Il était généreux.
Alors qu'il t'a traité en égal, mais dans le sens
oui,
que tu sais, il t'a traité comme,
tout ça, tu vois,
comme puis, deux passionnés simplement de
exactement,
Molière.
Exactement, de Molière. Ouais. Puis c'est surtout aussi que lui, il a une vision de la façon dont le verbe doit être dit. Il a une façon de dire qui lui est propre, qui est vraiment particulière.
Luchini fait du Luchini.
Exactement. Et lui, c'est comme ça que le verbe se porte. Quand tu le portes autrement, tu es dans l'erreur. D'accord? Et donc... Le fait que, évidemment, je ne le porte pas comme lui, je le porte comme moi, il aurait pu faire, mais c'est pas ça du tout, en fait. Il est jeune, il est bien, il est gentil, mais bon, on voit, les Québécois, vous avez une façon particulière hein, de dire les choses, on ne comprend rien. Il aurait pu me... Mais pas du tout, au contraire. Il a
formidable.
Été très dingue.
Mais quand t'es retourné chez toi, tu te pinçais?
Ben, écoute, c'est comme un accident de char, en fait.
Ouais.
Puis,
ça prend du temps avant de réaliser que c'est vraiment arrivé.
Ouais, puis honnêtement, il y a une chose que j'ai pas et qui me fait de la peine parce que plusieurs fois dans ma vie, j'aurais pu faire « Wow, hey, je suis en train de vivre ça. » J'ai pas la fuse du groupie. Je l'ai pas.
Mais t'admets. Oh, mon Dieu, si tu savais comme je l'ai, moi, je suis complètement groupie
si
de vrai. Tout.
Mais il faut admirer dans la vie.
Moi, je suis groupie et je l'avoue, mais j'ai ça en moi. Alors moi... Tu me présentes Fabrice Luchini, puis je fais « Ah! Mon Dieu! » Tu sais, puis là, je suis Salam Alec.
Puis qui t'aurais aimé rencontrer?
Oh, mon Dieu!
C'est drôle, j'allais poser exactement la même question.
Ben, c'est-à-dire que moi...
Molière?
Ben oui! Si on parle d'un siècle passé,
ben là,
de plusieurs siècles passés. Mais je dois dire que moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un pour qui j'avais une admiration sans borne, c'est en théâtre.
Mm-hmm.
Et il y en a un qu'on a invité chez nous, c'est Patrice Chéreau.
Ah oui!
Quelques mois avant sa mort. Mm-hmm. Et ça a été pour moi... Tu sais, je me rappelle on lui avait dit, on va aller vous chercher à l'aéroport, moi et Annie Gascon. Puis là, tu vois ce petit monsieur-là qui arrive avec sa petite valise.
Il était tout petit?
Il était tout petit, tout c'est seul. Vrai? Oui, c'est pas, il est de ma grandeur. Puis tu es un peu taupin. En fait, bienvenez-vous-en dans ma voiture. Moi, je tellement énervée, tu sais comment je suis. Pas capable de garder le silence. J'ai parlé tout le long. Il me regardait comme si j'étais une extraterrestre.
Non quand seulement un grand homme de théâtre, mais un grand réalisateur de films. Son premier film, L'homme blessé, son premier film.
Ah,
tout, 30 ans.
Toute l'œuvre de Patrice Chéreau, moi, me jure d'en faire. Puis là, à un moment donné, on arrive. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. On arrive près du TNM, parce qu'il y avait un petit hôtel dans le Vieux-Montréal. Et on passe devant le TNM. J'ai dit, c'est là le théâtre. Et là, ils regardent, tu sais, ceux qui sont habitués à des théâtres européens, là, tu sais, avec
l'Odéon,
l'Odéon et compagnie.
Ben oui.
Et je vois son air, puis je fais, ouh. Et j'ai dit, oui. Il dit, écoutez, nous arrêtons maintenant, je vais aller voir la scène. J'ai fait, oui. Décalage horaire, bon, d'accord. Mais j'ai dit, oui, oui, on vous amène. Et là, je l'amène sur scène. La scène est vide parce qu'on l'attend. Il rentre sur le plateau. Et là, c'est un animal. J'ai jamais vu ça. Il est arrivé sur scène, puis là...
Il respirait.
Il respirait, comme un buffle. Il était comme ça. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Puis là, à un moment donné, il a fait, ah non, ça sent bon chez vous. C'est une scène. Non, je vais être bien ici. Ça va. Tu sais, je fais... D'accord.
Bon, tu pouvais me raconter. C'est très organique,
oui,
on dirait.
Incroyable,
ouais.
J'avais vu ça. Wow.
C'est des bébites, hein.
C'est des bébites. Là, j'allais le conduire à son hôtel. Puis le lendemain, il est arrivé sur scène, mais j'ai jamais vu ça non plus. Il y avait une chaise avec quelques éclairages. T'as jamais vu un Patrice Chéreau. D'accord. Alors, vous faites ça. Je suis là. C'est ici. OK. Il dirigeait l'équipe de scène comme s'il avait connu notre équipe de scène depuis des lustres. Puis tout le monde était. Tout le monde obéissait, tu sais, au doigt et à l'œil. Puis il a fait son show en une demi-heure, tellement il savait qu'est-ce qu'il voulait faire, tu sais. Mais moi, je le regardais, puis je me disais, mais c'est pas possible, j'ai Patrice Chéreau sous les yeux. Moi, toi, c'est quoi tes fans? Tes fans de qui, toi?
Ben, Fabrice Oquili.
C'est ce mot aussi,
J'ai rencontré Aznavour, avec lequel j'ai parlé. Ouais, avec lequel j'ai jasé un peu. Et mais un des beaux moments que j'avais vécu, c'est quand je faisais « Ça manque à ma culture ». J'ai eu la chance là,
de l'émission que tu animais à Télé-Québec.
À Télé-Québec. Et j'ai rencontré un paquet de monde là.
Ouais.
Mais une des belles choses, on a fait toute une émission sur Michel Fugain.
Ah oui.
Et Michel Fugain, Karine est copine avec.
Ah
oui? Oui, est copine avec. Et je reçois Michel Fugain, puis il nous dit, son équipe nous dit, il ne chantera pas. Il refuse de chanter. On va parler de son œuvre, de sa biographie, tout ça. Et à la fin... En fait, avec un groupe a cappella, on avait fait le thème et on faisait ses chansons. Et à la fin, Jean-François Grousse mettait au piano et on finissait « Surtout va changer ce soir ». Et pendant la pause, parce qu'on est en direct, pendant la pause, j'ai dit à l'équipe son, mettez un micro de plus sur le piano. Mettez un micro de plus sur le piano. Parce que j'avais senti qu'il avait vraiment trippé dans... Il y avait quelque chose de...
C'était amusé.
Voilà, il s'est amusé et tout. Et comme de fait, moi je pars... Tout va changer ce soir, on prend un nouveau départ. Et tout d'un coup, je le vois, il fait la terre, da, 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 da. Et il se met à chanter avec moi, tout va changer. Et là, j'ai chanté.
Bravo.
Michel Fugain.
Qui n'aime pas Michel Fugain?
Michel Fugain,
c'est audacin,
là.
Tu sais,
c'est.
Ouais. Mais nous, pour nous, c'est une légende.
C'est extraordinaire.
Bravo,
c'est. Ouais, c'est des moments comme ça où tu fais, il me semble que je vis quelque chose d'unique. Il y a quelque chose qui me nourrit là-dedans.
Et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là.
Des
fois,
ça...
c'est plus humble, puis des fois, c'est plus glamour. Ouais. Mais les deux sont aussi extraordinaires. Ouais.
Mais c'est de se ramener aussi, hein. Surtout qu'on développe des amitiés avec des gens qu'on a admirés, tout ça.
Oui.
Moi, je suis devenu très copain. C'est quelqu'un qui vient dormir à la maison et avec Thierry Lhermitte. Parce que, évidemment, Martin et Thierry sont des amis de 40 ans. Ils ont écrit ensemble, ils ont joué ensemble.
Tu me parles de Thierry Lhermitte, là.
Et donc, Thierry, très ami avec Karine et Martin. Moi, depuis 12 ans que je suis avec Karine, ben, on mange ensemble, tout ça.
Alors,
il est gentil et tout ça. Puis, des fois, ça m'arrive d'être à table, en train de manger, puis de faire Ah, il y a un côté groupie en moi qui, ah ben oui. qui s'éveille, qui fait...
Hey, j'ai le...
Serge, t'es en train Thierry, de manger du spaghetti avec je, Thierry Lhermitte.
Et j'éteins ça, et d'ailleurs, ça me gênerait énormément qu'ils entendent ça. J'éteins ça en moi, je fais, non, hey, faut que je garde le rapport simple.
Ben, une fois, j'étais jeune, j'avais lu le premier livre de Bernard-Henri Lévy dans un bar. J'étais dans un bar tout seul, La barbarie à visage humain. J'avais lu le livre au complet dans un bar, alors qu'il y avait la musique et tout ça. Wow. Écoute, vraiment, une épiphanie. Et là, Bernard Lévy arrive à Montréal.
Non.
Et là, je l'interview, il rencontre des journalistes, je l'interview, et là, je dis, oui, mais en 1967, vous avez dit, c'était l'affaire, 1967. Là, j'arrive, et là, il se retourne vers l'attaché de presse, mais il dit, c'est qui? J'avais 21 ans, 22 ans.
Wow.
Il dit, c'est qui ce gars? Mais il me connaît de A à Z. Je dis, je suis votre plus grand fan au monde. Et là, bon, il rentre. Et là, le soir, il est à Montréal. Et le soir, il m'appelle. Voulez-vous qu'on prenne un verre ensemble?
Oh, chanceux!
Non, mais là, écoute, là, attends une minute. Appelle les paramédics, là. attends une minute, là.
On t'a défibrillé.
Appelle les paramédics. Non, mais ça, c'est...
Wow!
Rencontrer quelqu'un que t'admires, c'est la chose la plus extraordinaire au monde.
Bon, alors, on est dans le name-dropping.
Oui, c'est Sophie.
Non, mais là, tout le monde est là vers son name-dropping. Alors, je vais faire mon name-dropping.
Vas-y.
Il y a plusieurs années de ça, j'animais une petite émission à Télé-Québec qui s'appelait Les Choix de Sophie.
Oui.
Et évidemment, c'était une quotidienne et tout ça. Puis je rencontrais tout ça, ce monde-là.
Là,
Isabelle Huppert et tous ces gens-là. Et à un moment donné, Alain Souchon vient.
Ah.
Et c'était l'époque de Foule sentimentale. C'était énorme. Et moi, Alain Souchon, c'était pas juste Foule sentimentale, c'était tout. Là. C'était Allô Maman, Bobo, c'était... Toute ma vie, toute mon adolescence, tout ça, pour moi, c'était Alain Souchon. Alors, il vient à l'émission, je fais une entrevue avec lui, on s'entend comme des larrons en foire. Il est dans la salle de maquillage, je suis à côté de lui parce que j'aimais parler avec les invités avant qu'on aille en onde. Et il me dit, mais vous me faites penser à une copine à moi à Paris. J'ai dit, ah oui, c'est qui? Il me dit, Sandrine Kiberlin.
Oh!
Il me dit, vous êtes là, mais... Vous avez la même énergie que Sandrine, vraiment,
wow.
Qu'est-ce qu'on s'amuse avec vous. Wow. On fait l'entrevue, ça se passe super bien. Et à l'époque, il y avait Les Choix de Sophie, puis il y avait Flash. Et Herbie Moreau fait une entrevue avec Alain Souchon dans une limousine entre Montréal et l'aéroport. Et il dit à Alain Souchon, bon, vous venez de passer 5 jours au Québec, ça s'est bien passé et tout ça. Et il demande à Alain Souchon et il dit... C'est quoi votre plus beau souvenir des rencontres que vous avez faites pendant que vous êtes à Montréal? Mais le gars, il est là pour Flash.
Ben oui.
Et Alain Souchon lui dit, j'ai rencontré une jeune animatrice, mais alors là, je l'ai adorée. Alors Herbie Moreau, il dit, elle s'appelle comment? Ben c'est Sophie Durocher, elle me fait penser à ma copine Sandrine Kiberlin.
C'est fun!
Alors voilà.
Donc, alors ça, là, c'est, tu t'épingles ça. Là. Tu
quand j'aurai 91 ans puis que je serai grand-mère, je pourrais dire à mon fils, grand-maman,
on lève notre verre à nos idoles.
Ouais. Oui.
Qui nous ont allumés, qui nous ont permis
mais
de...
Oui.
Pour terminer, on fait un toast à nos idoles, c'est pas vrai. On fait un toast à la culture.
Oui,
la culture. La culture, et souvent, moi, je fais... Mais tu sais, j'en fais moins, mais je fais des conférences dans des... Je rencontrais des jeunes à l'école qui me disaient à quoi ça sert... L'art, à quoi ça sert la culture? Tu peux pas t'ennuyer avec la culture.
T'as pas de raison.
Tu peux pas t'ennuyer. Ça donne une richesse à ta vie. Ça ajoute une couche.
Des fenêtres dans ta maison.
Ouais, de rêve.
Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien matériellement. Ça donne tout.
Je suis bien d'accord avec toi.
Tout à fait.
C'est une très belle conclusion.
Merci à la culture.
À la culture.
Et ça serait le fun que le gouvernement en parle davantage.
Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.